Jules Verne, Le Sphinx des glaces. Deuxième partie, chapitre 14. 11 ans en quelques pages. Le titre donné à ce chapitre indique que les aventures de William Guy et de ses compagnons, après la destruction de la goélette anglaise, les détails de leur existence sur l'île Tsalal, depuis le départ d'Arthur Pym et de Dirk Peters, vont être très succinctement racontés. Transporté à la caverne, William Guy et les 3 autres matelots, Trinkle, Roberts, Cowin, avaient pu être rappelés à la vie. En réalité, c'était la faim, rien que la faim, qui avait réduit ces malheureux à un état de faiblesse voisin de la mort. Un peu de nourriture prise avec modération et quelques tasses de thé brûlant additionnées de whisky leur rendirent presque aussitôt des forces. Je n'insiste pas sur la scène d'attendrissement dont nous fûmes émus jusqu'au fond de l'âme, lorsque William reconnut son frère Len. Les larmes nous vinrent aux yeux, en même temps que les remerciements envers la Providence nous venaient aux lèvres. Ce que nous réservait l'avenir, nous n'y songions même pas, tout à la joie du présent. Et qui sait si notre situation n'allait pas changer, grâce à l'arrivée de cette embarcation au rivage d'Holbrainland. Je dois dire que William Guy, avant d'entamer son histoire, fut mis au courant de nos propres aventures. En peu de mots, il apprit ce qu'il avait hâte d'apprendre, la rencontre du cadavre de Patterson, le voyage de notre goélette jusqu'à l'île Tsalal, son départ pour de plus hautes latitudes, son naufrage au pied de l'iceberg, enfin la trahison d'une partie de l'équipage qui nous avait abandonnés sur cette terre. Il connut également ce que Dirk Peters savait de relatif à Arthur Pym, et aussi sur quelles hypothèses peu fondées reposait l'espoir du métis de retrouver son compagnon, dont la mort ne faisait pas plus de doute pour William Guy que celle des autres marins de la Jane écrasés sous les collines de Clock Clock. À ce récit, William Guy répondit par le résumé des 11 ans qu'il avait passés sur l'île Tsalal. On ne l'a point oublié, le 8 février 1828, l'équipage de la Jane, n'ayant aucunement lieu de soupçonner la mauvaise foi de la population tsalalaise et de son chef, Too Wit, débarqua afin de se rendre au village de Clock Clock, non sans avoir mis en état de défense la goélette, à bord de laquelle 6 hommes étaient restés. L'équipage, en comptant le capitaine William, le second Patterson, Arthur Pym et Dirk Peters, formait un groupe de 32 hommes, armés de fusils, de pistolets et de couteaux. Le chien-tigre l'accompagnait. Arrivé à l'étroite gorge qui conduisait au village, précédé et suivi des nombreux guerriers de Too Wit, la petite troupe se divisa. Arthur Pym, Dirk Peters et le matelot Allen s'engagèrent à travers une fissure de la colline. À partir de ce moment, leurs compagnons ne devaient plus les revoir. En effet, à peu de temps de là, une secousse se fit sentir. La colline opposée s'abattit d'un bloc, ensevelissant William Guy et ses 28 compagnons. De ces malheureux, 22 furent écrasés du coup, et leurs cadavres ne furent jamais retrouvés sous cette masse de terre. 7, miraculeusement abrités au fond d'une large déchirure de la colline, avaient survécu. C'était William Guy, Patterson, Roberts, Cowin, Trinkle, plus Forbes et Lexton, morts depuis. Quant à Tigre, avait-il péri sous l'éboulement, ou avait-il échappé? Il l'ignorait. Cependant, William Guy et ses 6 compagnons ne pouvaient demeurer en cet endroit étroit et obscur, où l'air respirable ne tarderait pas à manquer. Ainsi que l'avait tout d'abord pensé Arthur Pym, ils s'étaient crus victimes d'un tremblement de terre. Mais ainsi que lui, ils allaient reconnaître que si la gorge était comblée par les débris chaotiques de plus d'un 1 million de tonnes de terre et de pierre, c'est que cet éboulement avait été artificiellement préparé par Too Wit et les insulaires de Tsalal. Comme Arthur Pym, il leur fallut, le plus vite possible, échapper à la noirceur des ténèbres, au défaut d'air, aux exhalations suffocantes de la terre humide. Alors que, pour employer les expressions du récit, ils se trouvaient exilés au-delà des confins les plus lointains de l'espérance et qu'ils étaient dans la condition spéciale des morts. De même que dans la colline de gauche, il exista des labyrinthes à travers la colline de droite, et ce fut en rampant le long de ces sombres couloirs que William Guy, Patterson et les autres atteignirent une cavité où le jour et l'air pénétraient en abondance. C'est de là qu'ils virent, eux aussi, l'attaque de la Jane par une soixantaine de pirogues. La défense des 6 hommes demeurait à bord, les pierriers vomissant boulets, rames et mitrailles, l'envahissement de la goélette par les sauvages. Enfin, l'explosion finale qui causa la mort d'un millier d'indigènes, en même temps que la destruction complète du navire. Tuwit et les Tsalalais furent d'abord épouvantés des effets de cette explosion, mais peut-être encore plus désappointés. Leurs instincts de pillage ne pourraient être satisfaits, puisque de la coque, du gréement, de la cargaison, il ne restait plus que des épaves sans valeur. Comme ils devaient supposer que l'équipage avait également péri dans l'éboulement de la colline, ils n'avaient pas eu la pensée que quelques-uns eussent survécu. De là vint que Arthur Pym et Dirk Peters d'une part, William Guy et les siens de l'autre, purent, sans être inquiétés, séjourner au fond des labyrinthes de Clock-Clock, où ils se nourrissaient de la chair de ces butors dont il était facile de s'emparer à la main, et du fruit des nombreux noisetiers qui poussaient sur les flancs de la colline. Quant au feu, ils s'en procurèrent en frottant des morceaux de bois tendre contre des morceaux de bois dur, dont il y avait quantité autour d'eux. Enfin, après 7 jours de séquestration, si Arthur Pym et le métis parvinrent, on le sait, à quitter leur cachette, à descendre au rivage, à s'emparer d'une embarcation, à abandonner l'île Tsalal, William Guy et ses compagnons n'avaient pas trouvé jusqu'alors l'occasion de s'enfuir. À 21 jours de là, le capitaine de la Jane et les siens, toujours enfermés dans le labyrinthe, voyaient arriver le moment où ces oiseaux dont ils vivaient leur feraient défaut. Afin d'échapper à la faim, sinon à la soif, puisqu'une source intérieure leur procurait une eau limpide, il n'y avait qu'un moyen, c'était de gagner le littoral, puis de s'aventurer au large dans une embarcation indigène. Il est vrai, où les fugitifs iraient-ils, et que deviendraient-ils sans provisions? Néanmoins, ils n'eussent pas hésité à tenter l'aventure s'ils avaient pu profiter de quelques heures de nuit. Or, à cette époque, le soleil ne se couchait pas encore derrière l'horizon du 24e parallèle. Il est donc probable que la mort fût venue mettre un terme à tant de misère si la situation n'eût changé dans les circonstances que voici. Un matin, c'était le 22 février, dans la matinée, William Guy et Patterson, dévorés d'inquiétude, causaient à l'orifice de la cavité qui donnait sur la campagne. Ils ne savaient plus comment subvenir aux besoins de cette personne, réduite alors à se nourrir uniquement de noisettes, ce qui leur causait de violentes douleurs de tête et d'intestin. Ils apercevaient bien de grosses tortues rampant sur le rivage. Mais comment se fussent-ils risqués à les rejoindre, puisque des centaines de Tsalalais occupaient les grèves, allant, venant, vaquant à leur occupation, en poussant leur éternel cri de Tekeli-li. Soudain, cette foule parut en proie à une extraordinaire agitation. Hommes, femmes, enfants, se dispersèrent de tous les côtés. Quelques sauvages se jetèrent dans leurs canots, comme si un terrible danger les menaçait. Que se passait-il? William Guy et ses compagnons eurent bientôt l'explication du tumulte qui se produisait sur cette partie du littoral de l'île. Un animal, un quadrupède, venait d'apparaître, et, se précipitant au milieu des insulaires, il s'acharnait à les mordre, il leur sautait à la gorge, tandis que sa bouche écumante vomissait de rauques hurlements. Et cependant il était seul, ce quadrupède, et on pouvait l'accabler de pierres ou de flèches. Pourquoi donc des centaines de sauvages manifestaient-ils une pareille épouvante? Pourquoi prenaient-ils la fuite? Pourquoi paraissaient-ils ne pas oser se défendre contre l'animal qui s'élançait sur eux? L'animal était blanc de poils, et à sa vue se produisait ce phénomène déjà observé, cette inexplicable horreur du blanc, commune à tous les indigènes de Tsalal. Non. On ne saurait se figurer avec quelle frayeur ils poussaient, avec leur tekelili, ces cris d'anamoumou et de lama lama. Et quelle fut la surprise de William Guy et de ses compagnons lorsqu'ils reconnurent le chien Tigre. Oui, Tigre, qui, échappé à l'effondrement de la colline, s'était sauvé à l'intérieur de l'île. Et après avoir rôdé aux alentours de Clock-Clock pendant quelques jours, le voici qui était revenu, jetant l'effroi parmi ces sauvages. On se souvient que le pauvre animal avait déjà éprouvé les atteintes de l'hydrophobie dans la cale du Grand Pouce. Eh bien, cette fois, il était enragé. Oui, enragé, et menaçait de ses morsures toute cette population affolée. Voilà pourquoi la plupart des Tsalalais avaient pris la fuite, et aussi leur chef, Tuwit, et aussi les Vampus, qui étaient les principaux personnages de Clock Clock. Ce fut dans ces extraordinaires circonstances qu'ils abandonnèrent non seulement le village, mais l'île, où nulle puissance n'aurait pu les retenir, où ils ne devaient point remettre le pied. Cependant, si les canots suffirent à en transporter le plus grand nombre sur les îles voisines, plusieurs centaines d'indigènes avaient dû rester à Tsalal, faute de moyens de s'enfuir. Quelques-uns ayant été mordus par tigres, des cas de rage s'étaient déclarés, après une assez courte période d'incubation. Alors, spectacle dont il est impossible de retracer l'horreur, ils s'étaient précipités les uns sur les autres, ils s'étaient déchirés à coups de dents. Et les ossements que nous avions rencontrés aux environs de Clock Clock, c'étaient ceux de ces sauvages, qui depuis 11 années blanchissaient à cette place. Quant au malheureux chien, il était allé mourir en un coin de ce littoral, où Dirk Peters avait retrouvé son squelette, auquel tenait encore un collier gravé du nom d'Arthur Pym. Ainsi c'est à cette catastrophe, et la puissance géniale d'un Edgar Poe était certes capable de l'imaginer, que fut dû l'abandon définitif de Tsalal. Réfugiés dans l'archipel du sud-ouest, les indigènes avaient pour jamais quitté cette île, où l'animal blanc venait d'apporter l'épouvante et la mort. Puis, après que ceux qui n'avaient pu s'enfuir eussent péri jusqu'au dernier, dans cette épidémie de rage, William Guy, Patterson, Trinkle, Cowin, Roberts, Forbes, Lexton, se hasardèrent à sortir du labyrinthe, où ils étaient à la veille de mourir de faim. Durant les années qui suivirent, quelle fut l'existence des 7 survivants de cette expédition? En somme, elle avait été moins pénible qu'on ne l'aurait dû croire. Leur vie était assurée par les productions naturelles d'un sol extrêmement fertile et la présence d'un certain nombre d'animaux domestiques. Il ne leur manquait que les moyens d'abandonner Tsalal, de revenir vers la banquise, de franchir ce cercle antarctique dont la Jane avait forcé le passage au prix de 1000 dangers. Menacés par la furie des tempêtes, le choc des glaces, les rafales de grêle et de neige. Quant à construire un canot capable d'affronter un aussi périlleux voyage, comment William Guy et ses compagnons l'auraient-ils fait, faute d'outils nécessaires, et lorsqu'ils en étaient réduits à leurs seules armes, fusils, pistolets et coutelas. Donc il n'y avait à se préoccuper que de s'installer du mieux possible, en attendant une occasion de quitter l'île. Et d'où pourrait-elle venir, si ce n'est de l'un de ces hasards dont dispose seule la Providence? En premier lieu, sur l'avis du capitaine et du second, on résolut d'établir un campement sur la côte du nord-ouest. Du village de Clock Clock, on n'apercevait pas le large. Or, il importait d'être constamment en vue de la mer, pour le cas, si improbable, hélas, où quelques bâtiments apparaîtraient sur les parages de Tsalal. Le capitaine William Guy, Patterson et leurs 5 compagnons redescendirent donc à travers le ravin, à demi rempli des décombres de la colline, au milieu des scories friables, des blocs de granit noir et de marnes grenaillées, où scintillaient des points métalliques. Tel s'était présenté aux yeux d'Arthur Pym l'aspect de ces lugubres régions, qui, dit-il, marquaient l'emplacement de la Babylone en ruine. Avant de quitter cette gorge, William Guy eut la pensée d'explorer la faille de droite, où Arthur Pym, Dirk Peters et Allen avaient disparu. Cette faille étant obstruée, il lui fut impossible de pénétrer à l'intérieur du massif. Aussi ne connut-il jamais l'existence de ce labyrinthe naturel ou artificiel que faisait le pendant de celui qu'il venait d'abandonner, lesquels communiquaient peut-être l'un avec l'autre sous le lit desséché du torrent. Après avoir franchi cette barrière chaotique qui interceptait la route du nord, la petite troupe se dirigea rapidement vers le nord-ouest. Là, sur le littoral, à 3 000 environ de Clock Clock, on procéda à une installation définitive au fond d'une grotte à peu près semblable à celle que nous occupions actuellement sur la côte d'Holbein Land. Et c'est en cet endroit que pendant de longues et désespérantes années, les 7 survivants de la Jane vécurent. Comme nous allions le faire nous-mêmes, il est vrai, dans des conditions meilleures, puisque la fertilité du sol de Tsalal offrait des ressources qui manquait à celui d'Holbrainland. En réalité, si nous étions condamnés à périr, lorsque nos provisions seraient épuisées, eux ne l'étaient pas. Ils pouvaient indéfiniment attendre, et ils attendirent. Ce qui ne faisait aucun doute dans leur esprit, c'est qu'Arthur Pym, Dirk Peters et Allen avaient péri dans l'éboulement, et ce n'était que trop certain pour ce dernier. En effet, aurait-il jamais imaginé qu'Arthur Pym et le Métis, après s'être emparés d'un canot, avaient pu prendre la mer? Ainsi que nous le dit William Guy, aucun incident ne vint rompre la monotonie de cette existence de 11 années. Aucun. Pas même l'apparition des insulaires, auxquels l'épouvante interdisait l'approche de l'île Tsalal. Nul danger ne les avait menacés pendant cette période. D'autre part, à mesure qu'elle se prolongeait, ils perdaient de plus en plus l'espoir d'être jamais recueillis. Au début, avec le retour de la belle saison, quand la mer redevenait libre, ils s'étaient dit qu'un navire serait envoyé à la recherche de la Jane. Mais lorsque 4 ou 5 ans se furent écoulés, ils perdirent toute espérance. En même temps que les produits du sol, et parmi eux ces précieuses plantes antiscorbutiques, le cochléria, le céleri brun, qui abondaient aux environs de la caverne, William Guy avait ramené du village une certaine quantité de volailles, des poules, des canards d'espèces excellentes, et aussi nombre de ces porcs noirs, très multipliés sur l'île. En outre, sans avoir besoin de recourir aux armes à feu, il fut aisé d'abattre ces butors au plumage d'un noir de jais. À ces diverses ressources alimentaires, il convenait d'ajouter les centaines d'œufs d'albatros et de tortues galapagos, enfouis sous le sable des grèves, et rien que ces tortues, de dimensions énormes, d'une chair salubre et nourrissante, auraient suffi aux hiverneurs de l'Antarctique. Restaient encore les inépuisables réserves de la mer, de ce Jane Sound, où foisonnaient toutes sortes de poissons, jusqu'au fond des criques, des saumons, des morues, des raies, des antoïs, des soles, des rougets, des mulets, des carrelets, des scars, et aussi, sans parler des mollusques, ces savoureuses biches de mer, dont la goélette anglaise comptait prendre une cargaison afin de la vendre sur les marchés du Céleste Empire. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur cette période qui va de l'année 1828 à l'année 1839. Certes, les hivers furent très durs. En effet, si l'été faisait généreusement sentir sa bienfaisante influence aux îles du groupe Tsalal, la mauvaise saison, avec son cortège de neige, de pluie, de rafales, de tourmentes, ne lui épargnait pas les rigueurs. Le froid terrible régnait en maître sur tout le domaine des terres antarctiques. La mer encombrée de glace flottante se solidifiait pour 6 à 7 mois. Il fallait attendre la réapparition du soleil avant de retrouver ces eaux libres, telles que les avait vues Arthur Pym, telles que nous les avions rencontrées depuis la banquise. En somme, l'existence avait été relativement facile à l'île de Tsalal. En serait-il ainsi sur ce littoral aride d'Holbrainland que nous occupions? Si abondantes qu'elles fussent, nos provisions finiraient par s'épuiser. Et l'hiver venu, les tortues ne regagnaient-elles pas de plus basse latitude? Ce qui est certain, c'est que 7 mois auparavant, le capitaine William Guy n'avait pas encore perdu un seul de ceux qui s'étaient tirés sains et saufs du guet-apens de Clock Clock. Et cela grâce à leur robuste constitution, à leur remarquable endurance, à leur grande force de caractère. Hélas, le malheur allait bientôt s'abattre sur eux. Le mois de mai arrivé, qui correspond en ces contrées au mois de novembre de l'hémisphère septentrional, déjà commençaient à dériver, au large de Tsalal, les glaces que le courant entraînait vers le nord. Un jour, l'un des 7 hommes ne rentra pas à la caverne. On l'appela, on l'attendit, on se mit à sa recherche. Ce fut en vain. Victime de quelque accident, noyé sans doute, il ne reparut pas. Il ne devait pas reparaître. C'était Patterson, le second de la Jane, le fidèle compagnon de William Guy. Quelle douleur causa à tous ces braves gens cette disparition de l'un d'eux, de l'un des meilleurs? Et n'était-ce pas le présage de prochaines catastrophes? Or, ce que William Guy ignorait, ce que nous lui apprîmes alors, c'est que Patterson, dans quelles circonstances on ne le saurait jamais, avait été emporté à la surface d'un glaçon sur lequel il allait mourir de faim. et c'était sur ce glaçon, parvenu à la hauteur des îles du prince Édouard, rongé par les eaux plus chaudes, et près de se dissoudre, que le bosseman avait découvert le cadavre du second de la Jane. Lorsque le capitaine Langui eut raconté comment, grâce aux notes trouvées dans la poche de son malheureux compagnon, l'Holbein s'était dirigé vers les mers antarctiques, son frère ne put retenir de grosses larmes. À la suite de ce premier malheur, d'autres survinrent. Les 7 survivants de la Jane n'étaient plus que 6, et bientôt ils n'allaient plus être que 4, après avoir été réduits à chercher leur salut dans la fuite. En effet, la disparition de Patterson ne datait que de 5 mois, lorsqu'au milieu d'octobre, un tremblement de terre vint bouleverser l'île Tsalal de fond en comble, en même temps qu'il anéantissait presque entièrement le groupe du sud-ouest. On ne saurait se figurer avec quelle violence s'accomplit ce bouleversement. Nous avions pu en juger lorsque le canot de notre goélette avait accosté la falaise rocheuse, indiquée par Arthur Pym. Assurément, William Guy et ses 5 compagnons n'eussent pas tardé à succomber s'ils n'avaient eu le moyen de fuir cette île qui maintenant se refusait à les nourrir. 2 jours après, à quelques centaines de toises de leur caverne, le courant amena un canot qui avait été entraîné au large de l'archipel du sud-ouest. Charger cette embarcation d'autant de provisions qu'elle en pouvait contenir, s'y embarquer pour abandonner l'île devenue inhabitable, c'est ce que William Guy, Roberts, Cowin, Trinkle, Forbes et Lexton voulurent faire sans attendre même 24 heures. Par malheur, il régnait alors une brise d'une violence extrême, due au phénomène sismique, qui avait troublé les profondeurs du sol comme les profondeurs du ciel. Résister à cette brise ne fut pas possible, et elle rejeta l'embarcation vers le sud, livrée à ce courant auquel obéissait notre iceberg lorsqu'il dérivait jusqu'au littoral d'Holbein Land. Pendant 2 mois et demi, les malheureux allèrent ainsi à travers la mer libre, sans parvenir à modifier leur direction. Ce fut seulement le 2 janvier de la présente année 1840 qu'ils aperçurent une terre, celle précisément qui baignait à l'est le Jane Sound. Or, ce que nous avions reconnu déjà, c'est que cette terre n'était pas éloignée de 50 milles d'Holbein Land. Oui, telle était la distance, relativement faible, qui nous séparait de ceux que nous avions cherchés si loin, à travers les régions antarctiques, et que nous n'espérions plus revoir. C'était beaucoup plus dans le sud-est, par rapport à nous, que l'embarcation de William Guy avait atterri. Mais là, quelle différence avec l'île Tsalal, ou plutôt quelle ressemblance avec l'Holbein Land. Un sol impropre à la culture, rien que du sable et des roches, ni arbres, ni arbustes, ni plantes d'aucune sorte. Aussi leurs provisions presque épuisées, William Guy et ses compagnons furent-ils bientôt réduits à l'extrême misère, et 2 succombèrent, Forbes et Lexton. Les 4 autres, William Guy, Roberts, Cowin et Trinkle, ne voulurent pas demeurer un jour de plus sur cette côte, où ils étaient condamnés à mourir de faim. Avec le peu de vivres qui leur restait, ils s'embarquèrent dans le canot, et se livrèrent une seconde fois au courant, sans avoir été à même, faute d'instruments, de relever leur position. Or, comme ils naviguèrent 25 jours dans ces conditions, leurs ressources s'épuisèrent, et ils étaient à la veille de succomber, n'ayant pas mangé depuis 48 heures, lorsque l'embarcation, au fond de laquelle il gisait inanimé, parut en vue d'Holbein Land. C'est à cet instant que le bosseman l'aperçut, et Dirk Peters s'était jeté à la mer, pour la rejoindre, et avait manœuvré de manière à la ramener vers le rivage. Au moment où il mettait le pied dans le canot, le métis avait reconnu le capitaine de la Jane, et les matelots Roberts, Trinkle, Cowin. Après s'être assuré qu'il respirait encore, il prit les pagaies, nagea vers la terre, et lorsqu'il ne fut plus qu'à une encablure, soulevant la tête de William Guy, « Vivant ! Vivant !» avait-il crié d'une voix si puissante qu'elle arriva jusqu'à nous. Et maintenant les 2 frères étaient enfin réunis, sur ce coin perdu d'Holbein Land.